Menon et ses invités. Posez toutes vos questions au 01 42 32 15 15.
Bonjour, en ce dimanche matin, d'abord un gros merci, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, et bien ça nous fait énormément plaisir de savoir que la grand-messe de ce dimanche, donc, vous compte extrêmement nombreux derrière les transistors, dans les voitures, et que nous pouvons donc essayer de trouver de nouvelles pistes afin de nous interroger sur ce qui échappe au rationnel. Bien oui, de plus en plus, il est évident que nous nous sommes sans doute un peu trop cloisonnés, et qu'il est bon d'ouvrir les fenêtres et de se dire, tiens, au moins posons-nous les questions, sans pour autant en tirer rapidement des conclusions. Aujourd'hui, on va revenir sur un sujet que nous avons déjà abordé, mais il y a des nouveautés en la matière, c'est pourquoi il est bon de réouvrir le dossier, les fameuses expériences aux frontières de la mort. Alors, si vous avez connu ça, n'hésitez pas, vous manifestez, 01 42 32 15 15. C'est bien, là, je pense que sur un sujet comme celui-ci, certains d'entre vous peuvent ainsi avoir une sorte de lumière à nous proposer. Et nous avons deux invités pour donc consulter les nouvelles informations. On commence par la dame, vous êtes d'accord, mon cher ami ?
Bon,
non, parce que sur ma fiche, c'est vous d'abord le premier, mais là, je vais faire le contraire. Sylvie Détiola.
Détiola.
Ouais. C'est pas facile à dire. Hein.
C'est pas facile, faut se donner un peu de peine.
Ouais. Oui, mais je veux pas commencer par la peine, je veux commencer par le bonheur. Alors, donc, vous êtes docteur en biologie moléculaire.
Oui, c'est ça.
Non, mais ça vous estampille sérieux, ça, dès le départ. C'est important, surtout sur un sujet comme celui-ci.
Tout à fait.
Et vous avez créé une association, l'association Suisse Active sur les NDE. Donc, les NDE, c'est le titre anglais d'expérience aux frontières de la mort.
Tout à fait.
D'accord. Oui. Et Noesis, donc, parce que vous êtes suisse et que vous vivez là-bas du côté de Genève.
Voilà. Mais ce n'est pas une association, en fait. C'est un centre. Tout d'abord, c'est un centre d'accueil pour les personnes qui ont vécu une NDE ou une autre expérience connexe. Par là, j'entends tous les états de conscience modifiés, quels qu'ils soient, sans que la proximité de la mort soit forcément nécessaire.
Et les histoires d'amour, on ne vient pas chez vous, parce que c'est un état modifié de conscience.
Mais en général, les gens se débrouillent assez bien tout seuls niveau-là. Ça peut arriver dans la discussion, mais c'est plus rare, disons.
Alors, donc, on verra tout à l'heure pourquoi vous avez délaissé la recherche en biologie afin de vous intéresser à cette partie, je dirais, assez étonnante de notre vie terrestre, à savoir la capacité que nous pourrions avoir à échapper à la gravitation, à notre monde, à être en dehors de la vie, sans pour autant être dans la mort, parce que si on était dans la mort, théoriquement, on n'en revient pas, nous sommes bien d'accord.
Tout à fait.
Pardon. Donc ça pose aussi des questions sur le cerveau et la façon dont il est connecté.
Ouais.
Alors face à vous, Éric Rollet, co-directeur d'un livre, alors c'est un livre qui traite de tous les sujets que nous abordons le dimanche matin, c'est pourquoi il est très intéressant, il est paru chez Dervy, Paranormal entre mythe et réalité. Alors là, eh bien, je dirais que toutes les personnes sérieuses qui s'activent en la matière se sont réunies afin de pouvoir faire le point sur toutes les questions qu'on doit se poser sur ces phénomènes en tant que tels. Nous sommes d'accord.
Une partie, en tout cas, des personnes sérieuses. Toutes n'étaient pas là, mais c'est vrai qu'il y avait du beau monde.
Alors, vous êtes aussi le président de ONDE, c'est l'Observatoire National de Discernement des Énigmes Scientifiques.
Oui.
Tout un programme.
Tout un programme, hein, qui dure depuis 5 ans.
Bon, alors, aujourd'hui, vous avez intégré dans ce programme des nouvelles données sur ces expériences aux frontières de la mort, données qui nous viennent avant tout d'Angleterre et de Hollande, c'est ça ?
C'est ça.
Alors, de quoi s'agit-il ?
Le fait nouveau, si vous voulez, c'est que ces témoignages, ces récits qui rapportaient des expériences aux frontières de la mort, étaient considérés comme de simples témoignages qui n'avaient pas véritablement une valeur scientifique. Aujourd'hui, on a de nouvelles données qui nous proviennent effectivement essentiellement d'Angleterre et des Pays-Bas, puisque nous avons eu 2 enquêtes avec une méthodologie extrêmement rigoureuse qui ont permis d'avancer un petit peu plus dans la compréhension et dans le nombre de témoignages qui peuvent exister dans les hôpitaux par rapport à ces expériences. C'était l'inconnu, déjà la première inconnue. Combien de personnes qui sont en réanimation, qui ont vécu un arrêt cardiaque, sont amenées à rapporter ce type d'expérience, c'est-à-dire, on peut le rappeler, le sentiment d'être sorti de son corps, d'avoir été aspiré dans un tunnel éventuellement, d'avoir débouché dans une lumière, etc., etc.
Alors oui, on peut peut-être s'arrêter 2 secondes sur le phénomène en tant que tel dans ces manifestations, puisqu'il semblerait qu'un certain nombre de paramètres se répètent à chaque fois. Là, je peux me tourner vers Sylvie. Sur votre site internet, vous résumez l'affaire, si je puis dire, en affirmant qu'il y a 5 points, 5 stades. Est-ce qu'on peut les donner, les 5 stades ? Éric vient plutôt de les survoler, mais alors...
Oui, bon, ça dépend un peu des chercheurs, un peu chacun a ses propres critères pour.
Mais en gros.
En gros, d'accord. Moi, je prends 5 phases. La première, c'est un sentiment de bien-être. Simplement, le témoin se retrouve dans un état de bien-être, un état un peu cotonneux. Simplement, il se sent bien. Ensuite.
Alors qu'il est souvent à l'hôpital, on verra qu'il y a d'autres cas, mais dans 90% des cas, ce sont des personnes qui ont été victimes
d'un accident
et qui sont vraiment menacées dans leur existence.
Ils peuvent être dans le coma, ça peut être suite au cours d'une opération chirurgicale, donc sous anesthésie. Il y a différentes, effectivement, il y a différentes conditions. Ensuite, ils ont le sentiment de se détacher de leur corps physique. C'est ce qu'on appelle la phase, la out-of-body experience, donc sortie hors du corps.
C'est bien dit, hein. Vous contredirez pas.
Ensuite, il y a le passage dans un tunnel, effectivement. Donc, on dit tunnel, mais ça peut être une spirale, ça peut être quelque chose un petit peu différent. En général, les témoins emploient le mot de tunnel. Ensuite, il y a, au bout de ce tunnel, ils voient une lumière. D'abord, qui est sous forme d'un point lumineux et qui les attire. Donc, ils vont se diriger peu à peu vers cette lumière, qui donc va prendre de plus en plus d'espace devant eux, jusqu'à entrer dans cette lumière. Et là, en fait, ça commence à varier. À partir de là, les témoignages commencent à varier. Il peut y avoir énormément de scénarios possibles.
Mais c'est intéressant de voir qu'il y ait effectivement des différences, parce que sinon, on se dirait que nous sommes tellement dans un stéréotype.
Quelque chose de tout à fait programmé.
Voilà. Donc ça n'aurait aucun intérêt. Alors, les différents facteurs. Il y a ceux qui, à ce moment-là, voient des entités, les entités qui peuvent être soit des anges, donc des êtres extrêmement spirituels, ceux qui ont le sentiment de retrouver des êtres disparus qui leur étaient très chers. Après, il y a
l'être de lumière, qui est souvent invoqué, qui est un être qui a un caractère, je dirais, plutôt divin, mais qui est indéfini, il n'a pas vraiment de forme, ils sentent qu'il y a une présence qui est là, avec qui ils vont communiquer.
Alors ça, ce sont ceux qui voient donc des personnages. Il y en a d'autres qui, au contraire, sont simplement dans une sorte d'univers paradisiaque, on peut dire ça, mais pas spécialement des paysages, c'est plus des jeux de lumière extrêmement chatoyants.
De couleurs, musique aussi, et surtout cette lumière. C'est cette lumière qui revient sans cesse, qui a vraiment un caractère qui est impossible à décrire avec notre vocabulaire. Donc,
et un sentiment d'amour absolu, dites-vous.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il se retrouve là, en dehors de toutes les jalousies, de toutes les bassesses terrestres, et le sentiment d'entrer en fusion avec ce qu'il y a de plus noble dans ce que nous connaissons, à savoir le sentiment de générosité. C'est l'amour
inconditionnel.
Voilà.
Ouais, c'est ça. C'est un sentiment d'amour inconditionnel, souvent associé avec un sentiment de connaissance. Ils ont l'impression qu'ils ont accès. En fait, qu'ils sont conscients de tout, qu'ils ont accès à toute la connaissance de l'univers.
Mais ça, c'est très subjectif, ça veut dire
tout
quoi la connaissance de l'univers
fait. Mais ils ont l'impression qu'ils pourraient se poser n'importe quelle question, ils auraient la réponse instantanément.
Oui, mais apparemment, personne ne se pose des questions, on revient, disons, avec la solution,
alors,
parce que sinon, on ferait de sacrés progrès après l'NDR.
Le gros problème, effectivement, c'est qu'ils ne reviennent pas avec cette connaissance. Et alors, quand on leur demande pourquoi, ils estiment que c'est parce que notre conscience de tous les jours n'est pas capable d'avoir, de pouvoir contenir en fait toute cette connaissance.
Oui, mais alors ce qui est complètement fou, c'est que d'un côté, ils ont cette sensation, apparemment, du moins dans les cas qui ont été collectés, aucun n'a posé une question qui aurait été suffisamment invraisemblable, ayant obtenu une solution qu'il aurait oubliée ensuite.
Ouais.
Bon, alors ça, déjà, c'est étrange, parce que dire on a la connaissance, mais sans la tester, bon, ça, c'est le premier point contestable. Et puis, le deuxième point, c'est de se dire que lorsqu'ils reviennent, ils ont un certain nombre d'éléments d'information, et pour certains, un psychisme totalement perturbé, qui leur vaut même parfois les capacités qui permettent d'entrer dans ces états modifiés de conscience, voire avoir des précognitions, etc. Et de tout cela, ils se souviennent. Par exemple, les précognitions, ils se souviennent qu'ils vont arriver à tel état de vie, et ça pourrait se vérifier ensuite.
Vous voulez dire des informations qu'ils ont eues au cours de...
Oui, de l'NDE.
Alors, pas toujours. Moi, j'ai souvent des témoins qui m'ont dit qu'ils ont eu accès à des informations sur leur futur, le futur du monde, des choses comme ça, des visions. Et qu'ils les ont oubliés, en fait. Et en les revivant plutôt au quotidien, ils ont parfois l'impression qu'effectivement, ça, ils l'ont vécu pendant leur NDE. Mais j'ai pas vraiment de cas de témoins qui soient revenus avec des choses très précises. Je crois que ça existe, mais moi, j'en ai pas entendu.
Alors, en revanche, Eric, ce qui est vrai, c'est qu'ils ont, pour certains, ils développent des capacités de magnétisme, ils vont avoir une sorte de capacité également à pratiquer l'art divinatoire, tout ce qui est lié à l'irrationnel.
Voilà, c'est ce qu'un certain nombre d'entre eux disent, c'est
avéré. Mais est-ce que ça se vérifie, ça ?
Alors, il faudrait pouvoir le vérifier. En tout cas, eux l'affirment. Ce qui est très troublant, c'est que les témoins que j'ai pu rencontrer et qui affirment ce genre de développement, effectivement, de capacités bizarroïdes, les dérangent, hein, la plupart du temps. Alors, ça va être capable, effectivement, de savoir qui sonne à la porte ou qui appelle au téléphone sans deviner. Enfin, c'est pas une devinette, hein. Ils sont sûrs et certains de savoir qui va sonner à la porte. Ils vont être capables, effectivement. J'ai connu un témoin, c'était très très troublant, qui était capable de deviner des auras vertes autour de certaines personnes. C'était annonce de leur mort, irrémédiable. C'était irrémédiable et vérifiable. Et elle n'en pouvait plus, elle ne pouvait plus vivre avec ça. Et un jour, ça s'est arrêté et elle était très soulagée. Donc je ne pense pas que ces témoins, a priori, puissent inventer ce genre de choses parce qu'ils en souffrent apparemment.
Mais est-ce qu'il y a aussi une sorte de télépathie sur les êtres qui leur sont chers et par exemple capable de se dire, d'affirmer, eh bien un tel, ne vous faites pas de soucis, on le croit à Marseille alors qu'en réalité il est à Naples. Je vous dis n'importe quoi, il est en train de vivre ça.
Est-ce non, d'une manière si détaillée, non. Je n'ai pas connaissance de ça. C'est possible que des chercheurs l'aient, hein, peut-être, Sylvie, mais moi non, hein, à mon niveau, je n'ai pas eu ça.
Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'apparemment, quel que soit l'âge, quel que soit le milieu, quel que soit la culture, on retrouve les paramètres que vous avez développés il y a quelques secondes. Et le plus troublant, ce sont deux cas que vous mettez en exergue sur votre site Noesis, à savoir les jeunes enfants et les aveugles, qui apparemment vivent les mêmes phénomènes, des aveugles de naissance, et qui, pour la première fois de leur vie, se retrouvent avec des images qu'ils vont rapporter ensuite.
Tout à fait. Bon, là, le seul problème avec les aveugles de naissance, c'est qu'ils n'ont... C'est très difficile pour eux d'arriver à décrire le phénomène de la vision, puisqu'ils ne l'ont jamais expérimenté. Donc, certains ont éprouvé des sensations et l'ont interprété, en fait, comme la vision. Mais on n'a pas une certitude absolue.
D'accord, mais Sylvie Tatolias, c'est qu'en l'occurrence, ils sont capables, pour la première fois de leur existence, de décrire un paysage. Alors que jusque-là, ils étaient dans le noir absolu. Ils sont sortis du noir.
Tout à fait.
Et alors, chez les jeunes enfants, vous parlez d'un cas, d'un petit poupon de 9 ans qui se retrouve... De 9 mois, pardon, qui se retrouve en opération, qui vit une NDE et qui va, lorsqu'il a 3 ans... raconter ce qu'il a vécu.
Oui, c'est la première chose qu'il a raconté une fois qu'il a été capable de parler, c'est ce qui est arrivé à ce moment-là. Je ne crois pas que c'était lors d'une opération. Je crois que c'était un cas de noyade, en fait, qui avait été rapporté par le docteur Melvin Morse. Mmh. Et en fait, donc il était resté quelques minutes sous l'eau. Et donc la première chose qu'il a raconté quand il a pu s'exprimer, c'est qu'il était sorti de son corps, qu'il avait vu une lumière, qu'il avait vu un personnage en blanc. Et ça, c'est très troublant parce qu'un enfant de cet âge-là, on peut difficilement penser qu'il a fabule ou qu'il a entendu parler de ça quelque part. Donc, c'est vraiment des témoignages extrêmement troublants. Et la seule chose qui est frappante chez les enfants, c'est que justement, ce sont des expériences qui sont beaucoup plus simples, beaucoup moins mystiques, qui sont peut-être justement moins sujettes à notre environnement, à tout ce qu'on entend.
Et à une extrapolation.
Et à une extrapolation et une interprétation, en fait.
Voilà, c'est
parce
ça.
Enfin, moi, ce qui me frappe beaucoup dans ces témoignages, et je pense qu'il faut être vraiment conscient, c'est qu'il y a une grande partie d'interprétation de la part du témoin et certainement de reconstruction a posteriori de l'expérience.
Marc Menon et ses invités.
Nous sommes donc avec Éric Relais. Je rappelle qu'il est co-directeur d'un livre. Pourquoi de co-directeur ? Moi, je dirais co-meneur, en quelque sorte.
Co-meneur, parce que c'est pas l'an de menant.
Non. Alors, c'est chez Dervy, Paranormal entre mythe et réalité, avec toutes les personnes qui se posent, enfin, un grand nombre de ceux qui se posent des questions qui sont extrêmement sérieuses. Pour certains qui ont l'étiquette d'une formation scientifique telle Sylvie Détolias, qui, je le rappelle, est docteur en biologie moléculaire. Vous êtes aussi le président de Onde, et puis cette association Noesis pour collecter toutes ces expériences aux frontières de la mort. Lorsque l'on est dans cette logique de l'interprétation, ce que vous évoquiez il y a quelques secondes, très vite on s'aperçoit qu'il y a ceux qui ont envie de croire à l'au-delà et aussitôt ils disent, on a été aspiré par la grande lumière, il y avait également des êtres qui nous conseillaient, qui nous appelaient un avenir meilleur presque, qui nous invitaient au paradis, et puis il y a ceux qui, en revanche, essaient de se mettre complètement en dehors de cela. Ils doivent le vivre d'autant plus mal puisque eux n'habitent pas cette expérience d'un côté mystique.
Complètement. Alors, il faut bien distinguer, c'est bien la difficulté, et c'est peut-être pour ça aussi que les témoignages sont aussi mal reçus dans la communauté médicale, que ce soit par l'environnement proche dans un hôpital, que ce soit les infirmières, que ce soit les médecins sur place, c'est qu'un témoin, lorsqu'il aura la force de parler, parce qu'il faut bien se rappeler, on l'a déjà abordé la question, qu'en moyenne, un témoin de NDE met 10 ans pour en parler. Hein. Mais il arrive que des témoins puissent en rapporter l'expérience tout de suite à l'hôpital, et c'est vrai qu'ils vont...
Ce sont ces cas-là les plus intéressants, parce que quand voilà. on met 10 ans, on peut se dire aussi qu'on a été dans une sensibilisation et que inconsciemment on a fini par enregistrer un certain nombre de paramètres qui viennent nourrir ce que l'on pense avoir vécu. Donc on se construit une sorte de raisonnement pour donner une cohérence à l'ensemble.
C'est vrai, c'est vrai.
Alors que quand c'est spontané, tout là c'est fait. Plus intéressant.
Alors là effectivement on a affaire à une partie qui va être une partie faite. Hein, effectivement, qu'est-ce que nous dit le témoin de son expérience, et puis après la partie inexorable, j'allais dire, de l'interprétation, comme s'il lui disait, donc de la personne qui va dire l'être de lumière que j'ai pu rencontrer, c'est Jésus-Christ. Voilà. Et ça, c'est effectivement, ça fait partie de l'interprétation. Donc, il faut être capable de bien distinguer hein, quand on veut avoir une approche scientifique de ces témoignages, et de bien distinguer entre la part du fait, de l'expérience en elle-même, de sa description, savoir si la personne est sortie de son corps, savoir si, comme c'est un cas par exemple, la personne est capable immédiatement de dire qu'il n'y a pas de chaise dans la salle d'attente d'à côté parce qu'elle vient de le voir.
Mais c'est ça. Là, on peut s'arrêter deux secondes sur cette notion de sortie du corps. Apparemment, il y a presque une double expérience. Puisqu'ils sont capables de rester dans une observation extrêmement terrestre, ils vont dire « les lieux étaient comme si j'ai aperçu le chirurgien qui se comportait de telle manière ». Et là, on pourra poser les questions au chirurgien lui-même et aux infirmières pour vérifier. Sur l'armoire, éventuellement, j'ai remarqué qu'il y a un outil alors que personne ne le sait, etc., etc.
Voilà, c'est ça.
Et puis, d'un autre côté, il y a le phénomène qui... eux, qui lui, les emportent en dehors de cet univers terrestre.
Avec leur psychologie, avec leur culture. Donc il est évident qu'un chrétien ne verra pas Vishnu au bout du tunnel, qu'un hindou ne verra pas le Christ au bout du tunnel. On a tous ces propos, comme il y a un réhabillage en quelque sorte de l'expérience avec toute la culture du témoin, ce qui fait qu'il faut bien distinguer effectivement la partie brute de la partie...
Alors là je me tourne vers la biologiste, hein, docteur en biologie moléculaire. Non mais c'est intéressant parce que ça montre bien qu'on n'est pas toujours... et même de plus en plus souvent avec des loufoques qu'on se pose des questions mais non parce que trop de gens ont sorte de daroquance en disant tout ça c'est de la foutaise et on s'aperçoit que bon bien vous avez été chercheur donc vous êtes intéressé à quoi en l'occurrence dans
alors,
la recherche
en gros mon sujet c'était le contrôle de l'expression des gènes.
Mais ça montre le sérieux de l'affaire. Et puis un jour, vous êtes dit qu'il y avait peut-être d'autres phénomènes qui ne pouvaient pas être expliqués par les gènes et par les associations moléculaires. Et vous avez eu la curiosité légitime de chercher à développer un travail par rapport à cela, un travail d'observation.
Tout à fait.
Avec les failles qui sont celles, en l'occurrence, de se fonder avant tout sur des témoignages.
Ouais.
Alors là, puisque Eric vient de développer les choses de façon très très claire, ne pourrait-on pas se dire, mais en réalité, ce sont des gens qui sont victimes d'hallucinations. Qu'est-ce qui nous permet ? Puisque si on est chrétien, on voit le Christ. Si on est hindou, éventuellement, on va voir Vishnu. On se dit, tout ça, ça montre bien que ce sont des composantes de notre cerveau. Alors, et de notre éducation.
Pour être honnête, actuellement, on est incapable de dire que ce n'est pas une hallucination. On ne peut pas le prouver, ça c'est sûr. Moi, je dis toujours que, personnellement, après toutes ces années d'études, je suis convaincue que ce n'est pas simplement une hallucination, mais c'est vrai que c'est de l'ordre de la conviction. Donc, en tant que chercheur, je garde toujours cette hypothèse de l'hallucination comme une hypothèse de travail. Mais c'est vrai que je suis convaincue que ce n'est pas simplement une hallucination à cause de toute cette acquisition d'informations qui se fait au cours de l'expérience et qui est très difficile à expliquer avec l'hypothèse hallucinatoire. Mais le gros problème, c'est que pour l'instant, on n'arrive pas à vérifier cette acquisition d'informations. Et justement parce que souvent, il y a un laps de temps énorme qui s'écoule entre le moment où la personne fait son expérience et le moment où elle la raconte. Donc on ne peut plus vérifier grand-chose. C'est très difficile. Donc on doit se baser un peu sur la bonne foi des témoins qui nous disent, à l'époque, j'en ai parlé avec mon entourage, les médecins, j'ai pu vérifier certaines choses que j'avais vues au cours de l'opération. Mais... il faudrait pouvoir le vérifier de manière systématique.
Alors ça signifie qu'aujourd'hui, vous, en tant que chercheur, par exemple en Suisse, vous essayez de contacter des hôpitaux et de demander aux médecins, aux chirurgiens, aux personnels soignants, de collecter après des opérations des informations en questionnant de façon presque détournée les gens pour savoir s'ils ont... Parce que là aussi, il ne faut pas induire. Ouais, donc ouais, essayer simplement de les aider à la confession ouais. sans pour autant qu'ils sentent qu'il y a une attente de votre part.
Je ne vais pas jusque-là, en fait. Je demande
ça serait bien de faire comme ça.
Qu'on me contacte. Simplement, quand le personnel soignant, les infirmières ou les médecins sont confrontés à un cas de NDE, qu'ils me contactent et puis que moi, je puisse venir recueillir le témoignage, discuter avec la personne sans que eux enfin qu'on attende que ce soit spontané. Effectivement, je crois qu'il ne faut pas provoquer le récit.
Peut-on dire aussi, puisqu'il y a nombre de personnes qui à l'hôpital se retrouvent avec des systèmes d'assistance respiratoire, donc on pourrait penser une suroxygénation du cerveau, il y a également bien, l'anesthésie avec un artifice de gaz, si je puis dire, pour permettre l'opération. Est-ce que ce ne sont pas là des éléments qui perturberaient le cerveau de telle sorte qu'à ce moment-là on pourrait avoir une hallucination et une sorte de constante entre les différents cas, parce qu'il y a donc ces deux sources de déstabilisation de l'environnement habituel du cerveau.
On ne peut pas totalement l'exclure, ça, effectivement. Ce qui est très troublant, c'est qu'au cours de ces expériences, les témoins font part d'une clarté de pensée, d'un état de conscience qu'ils n'ont jamais connu à l'état de veille, en fait. Et ça, c'est très difficile d'expliquer ça par un dérèglement chimique au niveau du cerveau. On ne comprend pas très bien pourquoi... à cause d'une drogue, il sera encore plus conscient que d'habitude.
Oui, parce que théoriquement, cela dit, je ne sais pas, il y a eu des expériences sous LSD où il semblait bien que les gens avaient plutôt une extrême conscience et même une très bonne mémorisation de ce qu'ils avaient vécu, non ?
Non, pas vraiment, apparemment. Non.
Non,
les expériences de LSD, au contraire, la conscience, il y a une perte
c'est
de lucidité.
C'est psychédélique, voilà, d'accord, c'est complètement fou.
Il n'y aura jamais deux expériences qui vont se ressembler.
C'est l'autre question que je voulais poser,
c'est
oui.
C'est qu'il n'y a pas ces constantes. Et que si c'était une hallucination, quand même, la grande question, c'est pourquoi est-ce que tout le monde hallucinerait de la même chose dans ces circonstances? Ce serait quand même étonnant de penser que des gens du monde entier, de langues, de cultures, de religions différentes, aient des hallucinations constituées essentiellement des mêmes images et des mêmes symboles et ressentent surtout les mêmes sensations dans ces circonstances particulières que sont l'approche de la mort ou bien un traumatisme. Donc ce serait quand même... Même si c'était une hallucination, ça soulève d'autres questions qui sont quand même assez passionnantes.
Alors ce qui est vrai aussi, c'est que là nous sommes dans les cas extrêmes, mais ces situations... de perception décalée, parce que là on n'est plus spécialement dans l'expérience aux frontières de la mort, mais disons qu'il y a des personnes qui se retrouvent à vivre les mêmes phénomènes sans pour autant être menacées dans leur existence. Ce sont celles qui se retrouvent dans une grande peur. Ça peut être un grand traumatisme, un viol soudain, enfin bon, des situations qui vous perturbent totalement.
Ça bouleverse les données. Il y a même des personnes qui peuvent cueillir une pâquerette, hein, qui peuvent vivre cette expérience. C'est tout à fait étonnant. Ça bouscule un petit peu le cadre, effectivement, de ces expériences. Pour revenir à la question de l'hallucination, je reviens sur ces deux enquêtes médicales très sérieuses, hein, Parnia et Van Lommel, où les conclusions, déjà, sont que 12% à peu près des personnes qui ont été réanimées avoir vécu cette expérience. Donc c'est quand même un chiffre intéressant. Et deuxièmement, en tout cas, Van Lommel, sur 10 ans, conclut que ces expériences posent très clairement la question de la localisation de la conscience. C'est inscrit, c'est publié par The Lancet, le journal médical anglais.
Mais Platon, déjà, les Grecs, ils posaient la question de la conscience.
Oui, mais voilà, mais ça repose la question.
Est-ce que le cerveau est capable de penser tout seul ou est-ce que c'est pas la pensée qui active le cerveau?
Ça mérite le débat.
La philosophie, mais il faut continuer.
Exactement, voilà. Mm-hmm. Et que l'hallucination pour Van Lommel est exclue. Hein, si on lit bien le compte-rendu, des encéphalogrammes plats, on a vraiment des cerveaux qui ne fonctionnent plus et des expériences qui se produisent. Donc il y a quand même les aveugles, comment ils peuvent halluciner, avoir des images. Enfin bon, il y a toutes ces questions qui se posent.
Hein. Alors c'est là aussi dans cette logique, pourrait-on se dire que s'il y avait véritablement hallucination liée par exemple au gaz, aux produits que l'on met pour une anesthésie, à ce moment-là toutes les personnes devraient vivre le phénomène en tant que tel.
Ouais. Et puis tout le monde, que faire des noyades, des accidents de la route, enfin des personnes qui prétendent avoir vécu cette expérience d'être sorties entre guillemets de leur corps au-dessus de la voiture, au-dessus de l'eau, et qui n'ont absolument pas eu d'injection de produits pharmaceutiques à cette occasion-là.
Voilà, au moment d'un choc fort, également.
Ou même de manière spontanée. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont dans leur salon en train de lire un livre et tout d'un coup, paf, ils...
C'est comme ça que ça vous est arrivé?
Non, ça m'est pas encore arrivé.
Mais on ne citera pas la lecture, on ne citera pas le livre.
Ah mais c'est dommage, moi j'aime bien avoir des informations. Sinon on est frustré. Avez-vous eu dans vos environnements respectifs, extrêmement proches, dans un instant on fera une page de publicité puis on va prendre l'une des premières personnes qui nous fait l'amitié de nous écouter, Jacqueline, on va dialoguer avec elle pour partager son expérience de NDE. Mais vous-même, avez-vous des gens qui sont d'un sérieux extrême, qui apparemment ne s'intéressent pas du tout aux phénomènes paranormaux et qui soudain, eh bien, vivant ça, sont complètement bouleversés. Vous, la chercheuse?
Je connais personne de mon entourage proche. J'ai rencontré des gens qui m'ont paru extrêmement sérieux, qui m'ont dit ne pas s'intéresser du tout aux phénomènes paranormaux, en tout cas avant leur expérience, et qui m'ont convaincu. Mais c'est vrai que c'est pas des gens que je connaissais avant, donc ça je peux pas dire.
Alors Eric, de votre côté, à Onde, il y a des témoignages qui vous viennent.
Complètement, comme à Novésis.
Oui, oui, bien sûr. Évident. Mais dans les personnes qui vous contactent, y en a-t-il qui disent, bah, écoutez, moi c'est fou parce que ça me met la vie en l'air. Je voulais surtout pas être dans ces éléments d'interrogation et je suis bien obligé aujourd'hui de me poser des questions.
Eh ben c'est clair. Et en tout cas, je l'affirme, les gens qui paraissent un petit peu fous, qui mythomanes ou qui veulent faire parler d'eux, ne sont pas si fréquents que ça. Les gens qui rapportent, qui ont le courage de rapporter ces expériences, parce que souvent c'est une expérience profondément intime, la rapportent comme un grand bouleversement et non pas obligatoirement un message à faire passer quelconque. Dieu existe, l'au-delà existe. Ce sont des gens qui ont vécu ça et qui veulent comprendre qu'est-ce que c'est que ce ça.
Et ils sont bouleversés?
Complètement.
Et il y a une véritable émotion parce que bon, le mythomane, comme vous dites, il peut raconter une histoire, surtout qu'aujourd'hui il y a suffisamment de témoignages pour se recomposer son petit truc, mais il n'en reste pas moins, il ne pourra pas faire parler ses tripes.
Non. Vous arriverez à faire la différence,
fait. Voilà, c'est ça.
À cause de l'émotion et en lui faisant préciser exactement ce qu'il a vécu. Et c'est vrai qu'un témoin ne racontera jamais l'expérience de la même façon la deuxième fois. La première fois, il va vous la raconter comme on la trouve dans un livre. Et puis, si vous revenez sur le sujet un peu plus tard, il ira plus loin. Et là, vous vous rendez compte qu'il a vraiment vécu quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec notre quotidien et qu'il a beaucoup de peine à décrire.
Ça ne s'entend pas, mais la dame est suisse. Elle s'appelle Sylvie Detoliaz. Elle est docteure en biologie moléculaire, directrice d'une association, Noesis, donc qui s'intéresse à ses expériences aux frontières de la mort. Éric Relais, donc, ce livre, Paranormal entre mythes et réalité, aux éditions d'Hervy, et puis l'association Onde. On se retrouve dans un instant.